J'espère que votre suite vous plaira, messieurs.
J'en doute pas.
À gauche, vous avez la chambre. Par ici, s'il vous plaît.
RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Salut Ben.
Ça va?
T'as quoi comme chambre?
La 59.
La chambre où Bono et moi on s'est rencontrés.
La curiosité?
Ah ouais?
Est un vilain défaut.
C'est cool.
Extrait du film de Sofia Coppola, Somewhere, où Johnny Marco, le héros de ce film, va vivre quelques temps au château Marmont. C'est ce château mythique de Los Angeles dont on va raconter l'histoire tout de suite avec Olivier Mine. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour Sidonie. Bonjour Thomas. Merci pour votre invitation.
Je suis contente. J'ai mon mari de radio et mon mari de télé. Enfin, c'est officiel pour les deux, donc il n'y aura pas de. Ça va aller. Hein.
Oui. Et on embrasse Jérôme, le vrai mari.
Hein. Oui, c'est vrai.
Vous êtes écrivain et animateur de Fort Boyard et de Tout le monde a son mot à dire. Notre jeu sur France 2 et vous publiez votre premier roman, il s'appelle Un château pour Hollywood et ce château c'est le fameux château Marmont. Pourquoi est-ce qu'il est mythique aujourd'hui ?
Il est sans doute mythique parce qu'il fait partie des derniers monuments, ce qu'on peut quasiment parler de monuments en fait, plus que d'hôtels, qui a traversé le temps. À Hollywood, beaucoup d'endroits ont été détruits. Pickfair, qui était l'endroit où Mary Pickford et Douglas Fairbanks avaient élu domicile, a été rasé. C'est là où ils avaient reçu le duc et la duchesse de Windsor, Chaplin, Maurice Chevalier. Tout ça n'existe plus. Combien de manoirs et d'endroits mythiques ont été ravagés par les pelleteuses ? Et le château Marmont a tiré son épingle du jeu. Et de plus, s'y est réfugié là-dedans des noms qui ont marqué l'histoire artistique du XXe siècle, ce qui évidemment a fondé sa légende.
Une petite liste rapide. Ah oui.
Rapidement, ben ça va de Marilyn Monroe bien sûr qui y est allée, il y a Clark Gable, Jean Harlow qui était la première Marilyn des années 30, il y a Chaplin bien sûr qui a écrit quelques scénarios là-bas, il y a Jim Morrison, il y a John Belushi qui y a malheureusement fini tristement. Il y a Duke Ellington, il y a Miles Davis, il y a Josephine Baker.
Lady Gaga dans les stars d'aujourd'hui.
Dans les stars d'aujourd'hui, il y a Lady Gaga en effet.
Scarlett Johansson.
Il y a, disons, quelle que soit l'époque en fait, à un moment donné ou à un autre, des gens s'y sont soit réfugiés, soit ils sont simplement restés pour le plaisir d'y goûter là. Non pas le luxe, car ce n'est pas très luxueux, mais en tout cas le calme et la volupté.
On est dans quel quartier de Los Angeles ? Alors, ça ne voudra peut-être rien dire, sauf que c'est la géographie a du sens aussi là-bas, c'est ça ?
C'est vrai qu'elle a du sens. On va dire, pour ceux qui n'y sont jamais allés, que Los Angeles est un endroit qui est grand comme l'Île-de-France, le comté de Los Angeles, et que dans cette ville, se trouvent des grands axes. Et il y en a un qui reste mythique, entre autres par le film de Billy Wilder, qui est Sunset Boulevard. Mm-hmm. Et ce Sunset Boulevard, qui est aussi long que Paris-Rouen, sur ce Sunset Boulevard, il y a un endroit qui est appelé le Sunset Strip et qui, dans les années 20, n'avait pas encore bénéficié du macadam. Donc, c'était un endroit que les Angelinos appelaient l'horreur. Une espèce de no man's land où personne ne voulait habiter. Sur le flanc de la colline, quelques aventuriers avaient construit quelques maisons, mais sinon, c'était des bandes de coyotes faméliques qui rôdaient là-dedans et ça s'arrêtait là. Et c'est là où un homme, un avocat d'affaires, Fred Horowitz, a décidé un jour d'y construire un hôtel ressemblant à s'y méprendre à un château français.
Alors ce château Marmont va être le reflet d'Hollywood et son échappatoire, comme vous le disiez aussi, oui. Olivier Mine. Par exemple, première anecdote, on est dans les années 30 et il y a une vague puritaine qui sévit à Hollywood. Qui va accueillir le château Marmont ?
Eh bien, dans les années 30, en effet, le Code Hays tombe sur Hollywood, c'est en 1934. Eh bien, c'est pas que c'est la débâcle, mais c'est que tout ce qui faisait la caractéristique d'Hollywood, qui était la liberté absolue de penser mais aussi d'agir, c'est-à-dire qu'on pouvait aimer qui l'on voulait, et sans qu'à aucun moment on ne pose sur vous le regard moralisateur d'une dame patronesse, vous voyez. Mm-hmm. Donc que l'on soit bisexuel, homosexuel, hétérosexuel, qu'on aime les choses à 2, à 3, à 4 ou à 20, peu importait du moment que les corps exultaient.
Si c'est bien fait.
Mais on est bien d'accord. Donc c'est vrai que quand tout ça est tombé, eh bien des gens s'y sont réfugiés.
Et ils s'y sont réfugiés cachés d'une certaine façon, ou ceux
se protéger, c'est vrai, ouais. parce que l'on pouvait voir sa carrière détruite si des commères, et entre autres deux d'entre elles qui furent absolument redoutables et redoutées, qui étaient Luella Parson et Edda Hopper, si ces deux femmes écrivaient dans leur colonne que vous aviez été pris de la main dans le sac avec votre maîtresse ou en tant qu'homme avec un autre homme, votre carrière en était réduite à néant. Donc c'est vrai que c'était une manière pour ces gens-là de tout d'un coup trouver un endroit de paix et de tranquillité.
RTL.
Allez, faut qu'on descende, tout le monde t'attend. Allez, allez, dépêchons-nous.
Deux secondes, je voudrais juste lui parler deux minutes sur la terrasse, si tu permets.
La curiosité est un vilain défaut.
T'es plus belle en vrai, en tout cas, je te le dis.
T'as toujours dit que t'aimais bien mon nez.
J'adore ton nez.
Il est vraiment énorme.
Il est encore pas assez grand, moi. Toute l'affiche, ça devrait être ton nez, rien d'autre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Tout ce que t'as, c'est toi et ce que t'as à dire au public. Et pour l'instant, ils écoutent, mais ils écouteront pas éternellement, crois-moi.
Extrait du film magnifique Star is Born avec Bradley Cooper, film de Bradley Cooper également, et Lady Gaga évidemment avec cette scène, ces scènes qui sont tournées dans ce château mythique d'Hollywood, le château Marmont que nous décrit, que nous fait visiter l'animateur et écrivain Olivier Mine. C'est le personnage principal en quelque sorte de votre premier roman, Un château pour Hollywood, qui est publié aux éditions Séguier. Il a été construit, vous nous l'avez dit, au milieu des années 20 par un célèbre avocat de Los Angeles qui s'appelait Fred Horowitz. Il faut quand même nous décrire ce château mythique, il ressemble à quoi ?
Il est censé représenter ou ressembler au château d'Amboise. Mais alors, très sincèrement, c'est vu de manière très libre, on va dire. Mais c'est exact aussi que la décoration, la manière dont, architecturalement parlant, ils ont mis au point ce château, on pourrait, à s'y méprendre, penser qu'on a en fait déménagé à un château plus ou moins médiéval et qu'on l'a posé comme ça le long du Sunset Strip. À l'intérieur, d'ailleurs, il y a des éléments qui vous font penser qu'on est en effet dans une époque très très ancienne, bien avant même que les colons soient arrivés en Amérique. Donc voilà, c'est le côté kitsch des architectures des années 10-20 à Hollywood, où ils aimaient beaucoup s'inspirer de ce que l'Europe, bien sûr, elle, avait à sa disposition.
Mais c'est Fred Horowitz qui a l'idée d'en faire un hôtel dès le début ?
Il n'avait pas l'idée d'en faire un hôtel. Lui, il a l'idée d'en faire une résidence appartement avec un service VIP ou des cuisines peuvent éventuellement le soir, pour ceux qui maîtrisent mal l'art gastronomique, recevoir des plats tout faits dans leur suite. Mais en fait, malheureusement pour Fred Horowitz,
la crise de 29
ouais. apparaît et évidemment son château se vide aussi vite qu'il ne s'était rempli. Et contraint à la revente, il file leur bébé à Albert Smith, qui est un ancien producteur de cinéma. Et c'est Albert Smith qui a eu l'idée de génie, sachant que les Jeux Olympiques de Los Angeles n'allaient pas tarder à arriver. Qui s'est dit, non, ce qu'il faut en faire, c'est un château hôtel avec des suites et de plus petites chambres. Après, le château s'étendra, un terrain à côté sera acheté où ils feront construire des bungalows et des cottages, mais dans un premier temps, c'est un hôtel c'est la version hôtel, pardon, qui sauvera Albert Smith de la banqueroute.
Et ce château Marmont, Olivier Mine, c'est le château de tous les plaisirs, de tous les secrets aussi d'Hollywood. Et en 54, c'est un amant qu'Elizabeth Taylor cache dans cet hôtel. De qui s'agit-il ?
Oui, alors un amant à la mode de Bretagne, c'est Montgomery Clift qui est amené au château Marmont. Je dis la mode de Bretagne parce que Elizabeth Taylor, comme Nathalie Wood l'a fait avec Tab Hunter, qui était une immense vedette que plus personne ne connaît aujourd'hui, de la Warner, qui était un jeune homme comme seul la Californie peut en enfanter, vous savez, le surfeur blond aux jolis abdos.
Le mec agaçant.
Le mec très agaçant, évidemment. Eh bien, comme Nathalie Wood couvrait Tab Hunter qui était homosexuel, Montgomery Clift l'était aussi. Et en fait, comment dire, Elizabeth Taylor était sa couverture. Elle se présentait comme sa fiancée, comme Nathalie Wood le faisait avec Tab Hunter ou avec d'autres. Mm-hmm. Et donc, malgré tout, une très grande relation, une très forte relation nouait ces deux personnes. Et quand Montgomery Clift a son accident de voiture, qui a failli le faire mourir, puisqu'il y a une partie de sa denture qui est partie dans sa gorge, et elle en a extrait une molaire, je crois, ou en tout cas une dent qui est restée bloquée dans la gorge de Montgomery Clift, elle l'a ramené au château Marmont et elle s'en est occupée comme une mère. C'est elle qui l'a soigné alors que tout le monde le donnait mourant, jusqu'à temps que, parce qu'il avait la face complètement ravagée, on ne lui refasse le visage, ce qui a fait de Montgomery Clift version 2 un homme différent physiquement, bien sûr, mais également qui a commencé à courir à sa perte parce que, ne se remettant pas de cet accident, il a commencé à prendre des substances illicites qui a fait qu'il en est mort.
Olivier Mine, dans les anecdotes dramatiques, dans les histoires dramatiques, il y a un autre accident de la route, celui qui coûtera la vie au photographe Helmut Newton. À la sortie du château Marmont, il fait un AVC et il a un accident de la route dans la foulée. Et puis, il y a l'histoire de John Belushi, qui est la star. Alors moi, j'ai les Blues Brothers en tête tout de suite quand je parle de John Belushi. C'était aussi la star d'une émission comique, le Saturday Night Live.
Pour dire aux auditeurs français, Saturday Night Live, c'était les nuls l'émission. Les nuls l'émission, c'est énormément inspiré de SNL.
Alors, comment meurt-il au château Marmont?
Il meurt malheureusement, comme beaucoup de jeunes gens qui, arrivant à Hollywood, se font piéger par la ville. Et quand je dis la ville, c'est plutôt l'industrie. C'est-à-dire qu'il est tombé dans les bras si soyeux de la drogue et de l'alcool. Et John Belushi était un jeune homme qui était plein de talent, un talent immense. Et malheureusement, il avait des problèmes à régler avec lui-même qu'il pensait ne pouvoir régler qu'à travers l'alcool et la cocaïne et l'héroïne. Le problème, c'est que malheureusement, on sait tous que c'est une impasse. Et alors qu'il est, il a à peine le début de la trentaine. On se trouve là en 1982, dans la nuit du 4 au 5 mars 1982.
Dans le bungalow 3 du château Marmont.
Dans le bungalow 3 du château Marmont, en effet, qui est un bungalow de style mid-century, qui est un style architectural très joli, un bungalow qui avait été construit au début des années 50, fin des années 40, début des années 50. Et c'est là où il va avoir rendez-vous avec la mort, parce que tout simplement, il n'y avait pas d'autre solution finalement pour cet homme que de finir ainsi, puisque le piège s'était refermé sur lui. Le piège à la fois du stress lié au succès immense que l'émission lui avait donné et de ce que les producteurs de la télévision lui faisaient subir, parce que, évidemment, il fallait chaque semaine rentrer des sketchs qui devaient être chaque fois plus performants. Et puis, stress également et pression des studios, parce que, en effet, les Blues Brothers étaient devenus un immense succès et qu'il fallait bien sûr renouveler ce succès. Tout est une question dans l'industrie de rentabilité. Ce garçon n'a pas résisté.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Tu m'entends, Jim Morrison ?
C'est ça, vivre au bord du gouffre !
On te filme,
tu penses, c'est planant !
Ordonne de revenir ici immédiatement, Jim Morrison, je vais pas me tuer pour toi !
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Oh, bébé !
Jim !
Non, 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 non ! Je veux vivre !
You know that it would be untrue.
C'est un lieu mythique, un hôtel où tout est permis. On vous dévoile les coulisses, les secrets du château Marmont avec l'animateur et écrivain Olivier Mine. On entendait les Doors, Olivier, avec son leader Jim Morrison, le leader des Doors, qui vient passer quelques jours. On est dans les années 60, on le disait. Le château Marmont va suivre toute l'histoire d'Hollywood. Donc c'est le reflet, l'échappatoire d'Hollywood. Il vient passer quelques jours à Hollywood. On sait que c'est pas un garçon très sage, Jim Morrison.
Non. On peut dire ça comme ça.
Ça va se passer comment pour lui au château Marmont? Quel souvenir il va laisser?
Il va laisser un souvenir épouvantable. Alors dans le roman, évidemment, j'améliore les choses encore, sans doute d'ailleurs en les exagérant, mais il laisse d'abord un bungalow dans un état épouvantable, au point même que la responsable des services généraux de l'hôtel dit à la direction, écoutez, s'il continue comme ça, nous arrêtons de faire le ménage dans cette chambre. Il y avait de tout dans cette chambre. Les murs étaient maculés de sang et d'excréments, le lit était défoncé, il y avait des traces de brûlures de cigarettes partout, bref, c'était une porcherie. Le jeune homme était, c'est vrai, dans des tripes particuliers, encore une fois, le même mix que pour John Belushi, mais plusieurs années auparavant, avec drogue et alcool. Morrison, c'est quelqu'un qui aime jouer avec la mort. C'est pas qu'il l'appelle forcément, mais il aime jouer avec. Et sur le toit du bungalow où il vit à ce moment-là, donc on n'est pas loin de la piscine du château Marmont, il décide un jour de faire une petite danse. Les gens d'ailleurs qui sont autour de la piscine sont effarés de voir ce type-là en train de faire une chorégraphie qui risque de lui coûter la vie. Et puis, se sentant des ailes, lui qui s'appelait le roi des lézards, parce que c'est comme ça qu'il s'était surnommé, se saisit de la gouttière du bungalow, il veut faire une pirouette. Évidemment, quand on est con, la boîte Morrison, les mains sans doute prises par, je ne sais pas, la moiteur de l'endroit, parce qu'il faisait bien chaud cette journée-là sur la Californie, les mains ripent, et donc il s'écrase le dos sur le petit appentis qui se trouvait collé au bungalow, et il a failli se briser le dos et mourir.
Ah oui.
Ce qui fera dire d'ailleurs à son acolyte, tu as grillé là ta septième et dernière vie. Il ne croyait pas si bien dire, puisque quelques années plus tard, Morrison trouvera la mort chez nous, ici à Paris, et non pas en
Rock and Roll Circus.
Oui, et par quoi ? Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il avait décidé de quitter le rock en se disant que finalement, cet art-là qui lui permettait de dénoncer à la fois ce qu'était le monde moderne et le monde industriel n'était plus le moyen suffisant pour le faire, et qu'il fallait revenir vers la poésie. Et la poésie, c'était Paris, c'était Baudelaire, c'était Verlaine, Rimbaud. Et donc voilà, il est parti dans son trip de poète qui, malheureusement, lui a offert la mort.
Olivier Mine, vous y avez séjourné dans ce château Marmont ?
J'y suis allé au tout début de l'écriture. J'avais écrit 2 pages à peu près, puis je me suis dit, si ça se trouve, c'est pas les 2 meilleures pages. Je dis pas que les 2 que j'ai gardées sont les meilleures, mais en tout cas, c'était pas celles que je désirais le plus. Je me suis dit, peut-être que le seul moyen de sentir pleinement l'endroit, c'est d'y résider. J'y étais allé quelques fois, mais je n'avais jamais été dormir au château Marmont, donc j'y suis allé.
Quelle suite, quelle vue, racontez-nous.
Non, j'ai pris un petit cottage, moi. J'ai demandé à avoir un petit cottage. J'ai pas été dans le bâtiment principal. Et donc j'étais dans ces... Parce que autour de la piscine, il y a des petits cottages de style plutôt espagnol, autour de Venelle. On a l'impression d'être dans un vieux village mexicain abandonné, couvert par les bananiers, les glycines et les rhododendrons. Et donc j'ai vécu là pendant une petite dizaine de jours. J'allais travailler le matin dans le grand hall de réception et dans le grand salon de réception près du hall d'entrée. C'est là où je tapais le matin mon texte. Et puis l'après-midi, c'était autour de la piscine. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le roman.
Il paraît qu'il y a une vue assez magnifique sur Los Angeles quand on est au Château Marmont.
Quand on est tout en haut, sur du penthouse 64, là où Howard Hughes, qui était un fameux producteur, c'est de là que Howard Hughes observait avec des jumelles les jeunes filles qui traînaient autour de la piscine. Et puis quand il en avait une qui voyait et qui lui plaisait, il envoyait son assistant à la chercher. Dans mon roman, c'est pas l'assistant, c'est un de mes héros qui lui ramène les comédiennes qui cherchaient à faire carrière. Et c'est vrai que j'ai demandé à visiter le penthouse. C'est absolument extravagant. Cette terrasse est immense et elle donne une vue énorme sur à la fois Los Angeles, on va jusqu'à l'océan, et quand la nuit tombe, vous avez cette espèce de tapis de diamants étincelants, parce que la ville s'illumine bien sûr, et vous avez l'impression d'être hors du temps. C'est quelque chose de très particulier.
Merci beaucoup Olivier.
Merci.
Votre roman
Merci,
Un château
Olivier.
Pour Hollywood est publié aux éditions Séguier. Je suis en plein dedans, il faut le dire, non seulement c'est passionnant, mais vous avez une plume extraordinaire, vous écrivez extraordinairement bien.
C'est un premier roman.
Donc c'est un beau voyage, c'est une vraie
Merci
réussite.
Beaucoup.
Donc moi je me le garde pour cet été, Olivier. Il paraît que vous avez fait Fort Boyard avec Mme Bonnec. Elle s'est bien comportée ?
Elle a été remarquable, vous pensez bien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.